Je voudrais vous parler aujourd'hui d'un homme de 32 ans, venu d'Afrique du Nord, berbère exactement, et qui se trouve, à l'époque dont je parle, à Milan. Nous sommes en l'an 386. Il est au milieu du guet, je veux dire en pleine crise spirituelle et existentielle. Certes, professionnellement, tout lui réussit. Il a fait des études à Carthage et à Rome, il est brillant, supérieurement intelligent et en pleine ascension sociale. Avec des amis haut placés, il fréquente les milieux riches et puissants de l'Empire romain. Demain, si tout se passe bien, il sera gouverneur d'une province ou conseiller d'un prince. Mais intérieurement, c'est beaucoup moins brillant. Saint Augustin, puisque vous avez peut-être deviné de qui il s'agit, nous raconte cet épisode de sa vie dans un des textes les plus célèbres de l'Antiquité chrétienne, un des plus beaux aussi. C'est au livre 8 des Confessions, que je vous résumerai à ma manière, en respectant l'esprit du texte et en y ajoutant quelques petites réflexions personnelles. Malgré son âge, déjà mûr, surtout pour l'époque, Augustin se cherche encore. Sur le plan affectif, et cet homme est un grand affectif, c'est un peu en désordre. Il a une concubine, on dirait aujourd'hui une copine. Il en a sûrement eu d'autres. Et de celle-là, il a eu un fils, qu'il aime beaucoup. Mais son cœur n'est pas stable. Les femmes le troublent. Il aime leur charme, et sûrement aussi les charmer. Il dit lui-même avec humour, « J'étais une espèce d'adolescent pitoyable » qui faisait de temps en temps une prière hypocrite du type « Mon Dieu, apprends-moi à me contrôler, mais pas trop vite, que je profite quand même des plaisirs de la vie. » Sur le plan religieux non plus, il ne sait pas trop où il en est. Bien sûr, il y a sa pieuse maman, la future sainte Monique, qui prie pour lui et de façon plus sincère que lui, qui prie le Dieu des chrétiens. Mais Augustin n'est pas chrétien. La religion de maman, ça va bien aux bigotes, mais pas à lui quand même. Il s'est donc fait manichéen, une doctrine un peu ésotérique qui avait à l'époque un certain succès. Et puis il a été déçu par cette espèce de secte. Il s'en est détourné au profit de la philosophie de Platon. Et comme il est, je l'ai dit, très intelligent, il est rapidement allé très loin dans les raisonnements, les spéculations. Son cerveau fourmille d'idées. Mais c'est comme si sa tête partait d'un côté, son cœur et son corps d'un autre côté ou de tous côtés. Augustin est déchiré, il est mal dans sa peau. Il n'a pas trouvé le centre, le sens de son existence. Et c'est dans ce mal-être que nous le trouvons, dans le petit jardin de la maison où il logeait avec un camarade d'études, Alypius. Sur un banc ombragé, les deux amis viennent d'avoir une conversation profonde. Ils se sont dit, un peu comme un défi, « Mais qu'est-ce qu'on fait ici? Qu'est-ce qu'on veut faire de notre vie? Et si on plaquait tout? Si on partait au désert? Si on se faisait ermite ?» Mais c'était encore des paroles en l'air, des projets d'adolescents. Alypius s'est éloigné, Augustin est seul, avec son tourment. Dans le jardin, il y a un figuier. Il se couche dessous et il pleure. Il pleure comme il n'a jamais pleuré. Pour la première fois peut-être, le grand intellectuel se sent nul. Le grand charmeur se sent tout nu, honteux. Oh le figuier! Ce n'est pas pour rien qu'Augustin précise, c'était sous un figuier. Car au commencement aussi, au paradis, c'est sous des feuilles de figuier qu'Adam avait caché sa nudité. C'est là que la voix de Dieu lui avait dit, avec douceur, « Adam, où es-tu ?» Et c'est sous le même arbre, comme par hasard, que Jésus aperçoit Nathanaël, un de ses futurs disciples, et il lui dit « Quand tu étais sous le figuier, je t'ai vu. » Augustin les connaît, ces passages de la Bible. Sa mère, sans doute, les lui a racontés. Mais aujourd'hui, c'est lui qui est sous le figuier, tout seul, tout triste. Et personne ne le voit, et personne ne l'appelle, du moins en apparence. Il pleure, justement, sur la différence entre ce qu'il est en apparence et ce qu'il est vraiment, entre son image et la réalité. Sous le figuier, il se reconnaît pauvre et perdu. Et voilà que, venant d'une maison voisine, une voix d'enfant résonne à ses oreilles. Voix de garçon ou de fille, dit-il, je ne sais pas. C'était comme une comptine, une chanson enfantine qu'il ne connaissait pas. Elle disait, en latin, puisqu'évidemment c'est la langue de l'époque, « Tolle legge, tolle legge », littéralement « prends et lis, prends et lis ». Augustin s'est relevé, un peu abasourdi. Il ne comprend pas, ou plutôt, il comprend très bien ce que cette voix lui dit. Arrête de chercher à tout comprendre, arrête de te soucier de toi-même, de vouloir toi-même maîtriser ton destin. Cette voix d'enfant lui dit d'écouter enfin la voix d'un autre, la parole d'un autre, au lieu de s'écouter toujours orgueilleusement lui-même. Alors que faire ? Sur le banc où il discutait tout à l'heure avec Alypius, les deux amis ont laissé un livre, un manuscrit des Épîtres de Paul. Augustin revient vers le banc. Il prend le livre, il le lit, « Tolle legge ». Et au hasard, mais dans ces moments-là peut-on parler de hasard, il tombe sur un passage de l'Épître aux Romains qui le bouleverse, qui le traverse comme une épée. C'est le verset 13 du chapitre 13. Je vous laisse le chercher et le lire vous-même. Cette parole le retourne, ou plutôt le remet à l'endroit. Augustin a trouvé la colonne vertébrale, l'axe de sa vie. Désormais, tout s'y rapportera. Je ne vais pas raconter la suite, mais je voudrais avec vous m'arrêter sur ce détail si important. C'est la voix d'un enfant qui a mis Augustin sur le chemin du Christ. Prends et lis. Une voix qui ne s'imposait pas, mais qui suggérait, comme en passant. C'était la voix du Christ, évidemment. Car le Christ parle doucement, pas d'une voix de tonnerre. C'est lui, secrètement, qui rejoignait Augustin dans sa détresse, dans sa tristesse, pour faire germer en lui la joie. C'est lui encore, sûrement, qui peut consoler et relever chacun de nous aujourd'hui. Dans ce jardin secret, sous un certain figuier, il nous attend.